Extrait d'une lettre d'Ernst Wittfeld, agriculteur allemand de 34 ans, qui appartenait à la première compagnie du 1er régiment de grenadiers de la garde empereur Alexandre. Orimont, le 31 octobre 1914. Chers parents et chère Louise, mes chers, nous avons passé une semaine difficile, car il nous a fallu passer 3 jours et 3 nuits en territoire hostile. Mardi matin à 7 heures, nous sommes partis d'ici, chargés de tout le paquetage, et il n'était pas du tout sûr que nous puissions y revenir. Mais nous sommes revenus vendredi soir. Dans cette lettre, je ne peux vous raconter qu'une toute petite partie de tout ce que j'ai vu, car je ne peux vous décrire tout le malheur, tous les ravages et la famine dont sont victimes les jeunes enfants et les femmes que nous avons rencontrés. Des soldats, il n'y en a presque plus. On ne voit que des vieillards. Ah, mes chers, comme vous avez de la chance d'être là-bas, chez vous, vous ne savez même pas à quel point vous avez de la chance. Vous avez grand tort de vous plaindre et de geindre, car vous n'en avez aucune raison. Vous allez peut-être me dire que tout ce que j'ai vu n'est encore rien par rapport à un champ de bataille jonché de cadavres d'hommes et de chevaux. Oui, c'est vrai, mais j'en ai déjà vu beaucoup trop, et j'ai mon content de misère et de désolation. Toute la récolte est pour partie dehors, pour partie moissonnée, pour partie en gerbe, pour partie éparpillée. C'est bien triste, tous ces beaux champs de blé laissés à l'abandon. Je vous en raconterai tout de même prochainement un peu plus. Ici, on continue de punir des camarades pour soûlerie. La dernière fois que nous avons reçu la solde, il n'était pas un soir où on pouvait se coucher tranquillement, et c'était bien triste de les voir rentrer tard le soir dans cet état. Bien des choses à vous tous. Ernst. Lettre d'Henri Floche, fusillé pour l'exemple à Vingré. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 heures hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et j'espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui me reprochait. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Henri Floche. Extrait d'une lettre de Christian Bordesching, lieutenant dans l'armée allemande, tué sur le front le 20 avril 1917. Il avait 24 ans. 21 mai 1916. À gauche se dessine l'homme mort et à droite la colline 304. La position de batterie allemande se situe avant les temps de forge où commence derrière l'enfer de 304. Je ne dis pas enfer à tort, car c'est ici que commence le royaume des tirs de barrage. Des odeurs de cadavres qui n'ont pas encore pu être enterrés s'élèvent des anciennes tranchées françaises ravagées. Du matériel de grande valeur a été laissé à l'abandon sur tout le chemin, des armes, des munitions, de la nourriture, des masques à gaz, du barbelé, des grenades et autres machines de guerre. Les dernières étendues d'herbe sont déjà bien loin derrière. On ne voit plus qu'un désert entièrement et violemment labouré par les grenades. Les cratères, les uns contre les autres, témoignent de l'horreur des tirs d'artillerie allemands qui nous ont précédés et des actuels tirs de barrages français. Il relèvera bientôt du miracle de traverser ce domaine accidenté, mais nous y sommes obligés, car c'est le seul chemin vers nos positions arrières, le nerf de vie de la victoire sur le front. Nous sommes en alerte pour être prêts à nous défendre ou à avancer. Pour ce qui en est de dormir ou de manger, ce n'est pas la peine d'y songer. Il faut supporter les privations. La colline elle-même était à l'origine en partie boisée et ne laisse plus paraître que quelques troncs noirs. Il n'y a plus aucune feuille verte ni brin d'herbe. Et malgré tout, dans toute cette horreur, une merveilleuse apparition. Au matin, une alouette chante et des multitudes de hannetons bourdonnent autour de nous et nous rappellent qu'au-delà de cette guerre que nous devons endurer, il y a encore un merveilleux printemps qui, après nous être battus, va encore nous réjouir. Quand vient le vent du nord avec son épouvantable odeur de putréfaction ou avec la puanteur des grenades de soufre et de phosphore, et quand le feu de batterie reprend, nos nerfs sont mis à rude épreuve, ce qui nous déclenche des états de désespoir. Les moments les plus tendus sont à la tombée de la nuit, où l'on redoute le plus une attaque. Le 18 août, tôt le matin, les Français ont attaqué le régiment voisin, mais n'ont pas été vainqueurs. Au soir, nous avons attaqué nos adversaires pour améliorer notre position. Nos adversaires étaient arrivés depuis peu, des soldats algériens qui se sont défendus coriacement. Il fut observé chez les nôtres à tout moment d'éminents exemples de bravoure. Avancement et croix de fer ont été la récompense méritée des braves qui, au mépris de leur vie, ont tout entrepris pour faire honneur à leur patrie pour le maintien de la 304. Lettre de Charles Guinan. Verdun, le 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessée. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touchée. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je me réveillai 15 jours plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Willy Lutz avait 23 ans en 1914. Adjudant de l'armée allemande, Il appartenait au 246e régiment d'infanterie. Il fut blessé au front près de Lorgy le 30 juin 1916. Extrait d'une lettre écrite à sa sœur 2 jours avant sa mort. 28 juin 1916. Chère petite sœur, merci beaucoup pour ta gentille lettre du 23 de ce mois et pour l'argent. Ta lettre m'a vraiment fait très plaisir et sans vouloir te flatter, tu écris véritablement des lettres très aimantes et très gentilles. J'ajoute que je te comprends si bien et tes gentilles lettres me semblent toujours si parfaitement claires. Je comprends bien que je suis encore de temps à autre un mystère pour ma chère Louise. Je sais très bien que je l'ai déjà été par le passé pour cette âme si bonne et si gentille et que je le reste parfois encore aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que je me trouve réellement dans une situation très difficile. Je sais, j'aime Louise, je la vénère, et j'ai la plus grande considération pour elle. Je pense aussi qu'elle pourrait un jour devenir très facilement ma charmante petite épouse. Mais faut-il donner dès maintenant sa parole en ces temps obscurs? Puis-je le faire? Dois-je le faire? Que de changements peuvent encore advenir? Dès demain, je peux me faire estropier. Une balle peut me rendre infirme. Et qu'adviendrait-il? Ai-je le droit de demander à ma noble et bonne Louisette de me prendre pour époux dans de telles conditions? Que lui apporterait dans ce cas le mariage? Non, jamais. Bien sûr, ce serait peut-être très agréable pour moi, mais jamais je ne pourrais me faire à cette idée. Ma conception du mariage est si élevée que je m'en effraie presque. Je suis si déprimée. Ma chère Louise ne m'a pas écrit depuis 4 jours. Si elle savait à quel point j'attends son courrier. Et demain soir, on monte aux tranchées. Qui sait si je reverrai jamais sa chère écriture. Je suis très déprimée. De toute ma vie, je ne l'ai jamais été autant. Il y a quelque chose dans l'air. Je le sens venir. Je me donne du courage en me disant « Tu es soldat ». Et tant que tu es soldat, tu es encore soldat. Nous vivons une grande époque. Chacun remplit son devoir jusqu'à la dernière extrémité. J'en suis conscient. Mais Mélanie, ma tendre et fidèle sœur, je te le dis à toi seule, je ne suis plus le même soldat qu'avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être le devineras-tu plus facilement que je ne pourrais te le dire. Où est passé le patriotisme ardent? Le grand enthousiasme de 14. Où que je tourne mes regards, je n'en vois plus de traces, et je connais des gens parmi tous les grades, même les plus élevés, et ces réflexions me rendent très nerveux. Je ne supporte plus cette maudite artillerie. Il faut que je me maîtrise et que je fasse un effort sur moi-même pour rester un exemple pour mes hommes. Que nous réserve encore cette époque ? Ce soir, j'ai eu pour la première fois une conversation avec mes 2 hôtesses. Elles disaient, entre autres choses, qu'elles priaient quotidiennement leur Dieu pour que la guerre s'arrête bientôt, et elles m'ont demandé si je le faisais aussi. Je ne leur ai rien répondu. Elles m'ont dit alors, la guerre, grand malheur. Leurs maris, tous les deux au front, pas de lettres, pas de journaux, pas de pain, pas de charbon, etc. Dépendant de l'Allemagne pour tout. Je pourrais t'en raconter aujourd'hui beaucoup plus, mais 8 pages déjà, sapristi, c'est déjà beaucoup trop pour une guerre si dure, si froide. Demeure encore à l'avenir comme tu le fus jusqu'à présent, ma bonne et fidèle petite sœur, et laisse-toi embrasser de tout son cœur par ton petit frère fidèle et reconnaissant, Willy. Témoignage du docteur Léon Barros. Les premiers blessés sont apportés. Il en arrive de toutes parts. Tout est occupé jusqu'au moindre recoin. C'est l'engouffrement par toutes les ouvertures, par toutes les fissures de ces pauvres poilus qui tombent dans nos bras, hébétés, hagards, les yeux fichés par l'horreur de ce qu'ils ont vu et les traits contractés par la douleur et les troubles, souffrances surhumaines qu'ils éprouvent. L'un, entre autres, et dans un état pitoyable de prostration et d'anéantissement, sentant l'urine et les matières fécales et dégageant une odeur de cadavre. Ce pauvre diable, blessé par les éclats d'obus qui lui ont broyé la cuisse, est resté pendant 2 jours à moitié enfoui dans le trou que l'obus meurtrier avait creusé contre le cadavre d'un de ses camarades, tué à côté de lui. J'ai vu là des soldats couverts d'une telle quantité de poux que les différentes parties des pansements en étaient envahies, jusqu'aux plaies. C'était une vraie boucherie, pleine de sang et de râles. Près d'une bougie, l'aumônier, les mains pleines de sang, n'arrête pas de panser les blessures. Je dors debout, du moins je somnole. Je vis comme un automate. Mon blessé pousse des cris horribles, et d'autres encore alignés le long du mur, prêts à être évacués, hurlent comme des forcenés. Les cris de souffrance nous masquent une canonnade formidable. Les morts sont entassés pêle-mêle les uns sur les autres comme des choses devenues sans intérêt. Puis allongés par terre, côte à côte et soigneusement ensevelis dans leur linceul, les pieds joints, les mains croisées sur la poitrine, quand ils possèdent encore des mains et des pieds. Karl Fritz, caporal de l'armée allemande. Il appartenait au 10e bataillon de chasseurs alpins, 2e compagnie. Argonne, le 16 août 1916. Chers parents et chères sœurs, le 2 à Saint-Laurent, nous avons entendu le signal de l'alerte. On est venu nous chercher avec des véhicules et on nous a amenés jusqu'à quelques kilomètres du front de Verdun. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury, devant le fort de Souville. Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus, à voir la mort de près, à l'attendre à chaque instant. Et cela sans la moindre goutte d'eau à boire, et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur les morts. Je faisais partie d'un groupe de camarades et pourtant chacun ne priait que pour soi. Le pire, c'est la relève, les allées et venues à travers les feux de barrage continus. Puis nous avons traversé le fort de Douaumont. Je n'avais encore jamais rien vu de semblable. Là, il n'y avait que des blessés graves et ça respirait la mort de tous côtés. En plus, nous étions continuellement sous le feu. Nous avions à peu près 40 hommes morts ou blessés. On nous a dit que c'était somme toute assez peu pour une compagnie. Tout le monde était pâle et avait le visage défait. Je ne vais pas vous en raconter davantage sur notre misère. Je pense que ça suffit. Nous étions commandés par un certain adjudant Ouf. On ne l'a pas vu, mais le Seigneur m'est venu en aide. Là-dessus, nous sommes repartis pour Spincourt, où on nous a chargés sur des véhicules à destination de Grand-Pont. Puis nous sommes revenus en 2 jours à nos positions devant Chapelle, où nous sommes maintenant un peu mieux installés. Je vais aussi écrire à Auguste. Je vous embrasse de tout cœur et vous recommande à Dieu, votre fils et frère reconnaissant, Karl. Lettre d'Eugène à sa femme Léonie. Le 30 mai 1917. Léonie chérie, j'ai confié cette dernière lettre à des mains amies, en espérant qu'elle t'arrive un jour afin que tu saches la vérité, et parce que je veux aujourd'hui témoigner de l'horreur de cette guerre. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque, l'eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés, la gale tous est bien vide. Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n'avons même plus de sèche. Pour nous réconforter, parfois encore un peu de jus et une rasade de casse-pâte pour nous réchauffer. Nous partons au combat, l'épingle à chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir, coiffé d'un casque en tôle d'acier lourd et incommode, mais qui protège des ricochets, et encombré de tout l'attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des offensives à outrance, qui ont tout échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Les malheureux estropiés que le monde va regarder d'un air dédaigneux à leur retour auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager d'un bras, d'une jambe en moins? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts. Lorsque j'avançais, les sentiments n'existaient plus. La peur, l'amour, plus rien n'avait de sens. Il importait juste d'aller de l'avant, de courir, de tirer. Et partout, les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d'accès boisées étaient rudes. Perdu dans le brouillard, le fusil à l'épaule, j'errais, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés. Une haine terrible s'emparant de moi. Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. Tous les combattants désespèrent de l'existence. Beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer, mais pas de défendre. Alors nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple, demain, avec 6 de mes camarades, pour refus d'obtempérer. En nous exécutant, nos supérieurs ont pour objectif d'aider les combattants à retrouver le goût de l'obéissance. Je ne crois pas qu'ils y parviendront. Comprendras-tu, Léonie chérie, que je ne suis pas coupable, mais victime d'une justice expéditive? Je vais finir dans la fosse commune des morts honteux, oubliés de l'histoire. Je ne mourrai pas au front, mais les yeux bandés, à l'aube, agenouillés devant le peloton d'exécution. Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste fin va t'infliger. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une si douce et si jolie folie, mais aujourd'hui, vous laissez seules, toutes les deux me brisent le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Promets-moi, mon amour, de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en héros sur le champ de bataille. Parle-lui de la bravoure et la vaillance des soldats. Et si un jour la mémoire des poilus fusillés pour l'exemple est réhabilitée, mais je n'y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre. Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage, car la France nous a trahis et la France va nous sacrifier. Promets-moi aussi, ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie. Ma mort sera ainsi moins cruelle. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages gravés dans ma mémoire seront mon dernier réconfort avant la fin. Eugène, ton mari qui t'aime tant. Le 11 novembre 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, les hostilités prennent fin après 51 mois de guerre. À Paris, 1200 coups de canon sont tirés. La sonnerie de l'armistice retentit sur l'ensemble du front alors que les cloches sonnent dans toute la France. À 10h50, 10 minutes avant que le clairon ne sonne le cessez-le-feu, l'agent de liaison Auguste Trébuchon, appartenant à la 163e division d'infanterie, est tué par une balle alors qu'il portait un ordre concernant le rassemblement de son régiment. Le dernier mort français de la Grande Guerre venait de tomber.